De faire des réformes sans payer, ça marche pas. L'idée de payer sans faire des réformes, c'est pas optimal non plus. Donc autant faire des réformes et compenser les gens qui perdent. Et je pourrais dire d'une autre manière, c'est un peu flexi-sécurité à tous les étages. C'est-à-dire faire des réformes en gérant de la flexibilité et compenser, notamment ceux qui ont besoin de l'être, et là je suis tout à fait d'accord avec Gabi Bonan, sur ceux qui ont besoin d'avoir une assurance. Alors, quand, ce sera mon troisième point, quand on a fait ce livre avec Charles Diploz, moi je m'attendais à ce qu'on se fasse exploser à gauche parce qu'on proposait des réformes un peu libérales et à droite parce qu'on proposait d'augmenter la dette. Alors pour mémoire, nous dans notre idée de payer pour la réforme, ça, refaire à peu près tout sauf les retraites, ça coûtait 10 points de PIB et la retraite est encore 10 points de PIB. Donc on proposait de manière un peu provocatrice qu'avec 20 points de PIB, grosso modo 400 milliards d'euros, une seule fois, on refaisait la maison du sol au plafond au lieu de bouger tuile par tuile quand il y a une gouttière. Et de manière assez étonnante, on a reçu plutôt un bon accord dans la gauche. Quand je suis allé parler de ça vers des gens proches de Strauss-Kahn ou de Ségolène Royal, on m'a dit oui, c'est à débattre, etc. J'ai eu des débats avec Gabi Bonan qui m'a dit bah oui, c'est intéressant, on peut en parler, etc. Et j'étais en revanche extrêmement critiqué à droite, où on m'a dit t'es fou allié, ça je le savais, mais on va faire la réforme sans payer. Voilà, donc c'est une fois de plus l'illusion du yaka de droite, c'est on fait les réformes, tant pis, et évidemment la première réforme, beaucoup de choses sont calées. Et ce qui était d'ailleurs un des travers de la commission Attali, pour dévoiler un peu les secrets, on a eu très vite un débat sur réforme, est-ce qu'il faut payer? Donc moi, j'ai donné mon point de vue, que je vais vous donner, qui était aussi repris par Philippe Aguillon. Donc, et sur les 44 membres de la commission Attali, on était deux, donc Philippe Aguillon et moi-même, à voter pour l'idée qu'il fallait payer pour faire des réformes. Voilà. Et j'avais tous les autres qui me disaient non. Non seulement on ne va pas payer, mais en plus on va faire des réformes en réduisant le déficit budgétaire, ce qui était vraiment totalement absurde. Donc, tout ça pour dire que les esprits n'ont peut-être pas suffisamment bougé. Alors, ce qui me fait arriver à mon quatrième et avant-dernier point, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec la crise? Alors, premièrement, je crois quand même qu'on s'est aperçu que faire des réformes sans payer, alors comme disait Alain Bergeron, l'ancien patron de la Force Ouvrière, il faut toujours du grain à moudre dans les négociations et autres. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben moi, j'aimerais transposer le titre de mon livre, qui était « Payer pour réformer », c'est-à-dire « Payer et réformer ». Aujourd'hui, pour des raisons diverses et multiples, qu'ils soient à la fois sociale et de relance keynésienne, le gouvernement va être obligé de dépenser énormément d'argent l'année prochaine. Les déficits vont exploser. Moi, j'ai des prévisions de déficit budgétaire. Je vais faire hurler Philippe Bouilloux, qui est à l'autre bout de la table, mais on va être probablement entre 6 et 7 points de PIB l'année prochaine. Bien sûr que si. Donc, quand ça part, les déficits, ça part très vite. Donc, qu'est-ce qui se passe avec cette crise? Mais d'abord, comme c'était dit par l'intervenant, les exemples de crise de pays qui sont réformés, c'est quand ils avaient le dos au mur, ou le dos à la falaise plutôt. Nous, on n'a jamais eu ça depuis bien longtemps. Depuis 1945, grosso modo. Et peut-être que, à quelque chose de malheur est bon, que le moment est arrivé. Alors pourquoi? En partie parce que quand il y a un sentiment de crise et d'urgence, la capacité des lobbies à bloquer la réforme est en un sens plus faible. Moi, ce qui m'a fasciné, l'autre jour, il y avait une manifestation du côté de Marseille des agriculteurs ovins qui demandaient beaucoup plus de subventions. C'est tombé, personne ne les a écoutés. Alors, bien ou mal, je ne sais pas débattre là-dessus, mais on dépassait déjà énormément d'argent, 10 milliards d'euros sur la politique agricole commune pour la France. Et ils vous disaient on voulait encore plus de subventions, alors que c'est le secteur économique le plus subventionné. Et c'est tombé dans une oreille de sourd. Alors qu'avant, dès que la FNSEA bougeait quelques troupes, le gouvernement calait. On aura la même chose. Alors pour l'instant, on a des manifestations dans le secteur public, il y en a peu dans le secteur privé. On sait que traditionnellement, oui, Deux minutes, ça va. On sait que traditionnellement, les manifestations sont dans les reprises de croissance et non pas dans la descente, dans la récession. Donc moi, j'aurais l'outrecuidance de dire que c'est maintenant qu'il faut faire la réforme, parce que la capacité des lobbies à bloquer les réformes est plus faible. Et c'est difficile pour des corps constitués, des insiders, de s'opposer à la réforme quand il y a beaucoup de gens qui sont sur la touche et qui sont touchés par le chômage ou par une plus grande pauvreté. Les objectifs budgétaires sont d'abord d'aider les pauvres en récession plutôt que de garder les rentes antérieures. Au titre du partage du fardeau, je crois que c'est plus facile. Et puis, deuxièmement, comme le gouvernement va payer, autant qu'il fasse des réformes. Dernier point, et ça va être ma dernière minute trente, la confiance dont Philippe Aguillon parlait, dont Gabi Bonan parlait aussi. C'est vrai, c'est compliqué de demander des réformes au monde du travail si les élites ne se réforment pas. Et on a des élites assez incestueuses en France. À la différence des États-Unis ou des pays anglo-saxons ou de pays comme l'Allemagne, il y a beaucoup moins de concurrence dans les élites et beaucoup moins de, alors je vais utiliser un mot anglo-saxon, de accountability. Moi, je suis... La finance anglo-saxonne est peut-être folle, mais quand vous perdez 4,7 milliards en faute de trading, le PDG, il saute le lendemain matin. Dans n'importe quelle banque anglo-saxonne. En France, il a fallu 6 mois et il était PDG, il n'est plus que président. Alors, on est invité par la Caisse d'épargne, donc je me sens obligé de critiquer la Caisse d'épargne. D'un point de vue externe, c'est quand même hallucinant. Il y a des erreurs, je veux dire, les PDG peuvent faire des erreurs, mais je trouve ça totalement hallucinant que des gens qui par leur manque de défauts de management, ne sautent pas quand ils font quand leur service perd 700 millions de... Moi, j'étais dans la finance pendant 10 ans. Je sais très bien que ce qui a été fait, c'est une erreur de gestion massive. La manière dont le trader de la Caisse d'épargne a été géré, les incitations, etc. N'importe qui... Donc, non, je suis désolé. Les gens qui ont été là ont perdu leur responsabilité et ils sont restés... Alors, comment on peut demander au monde du salariat des réformes importantes de flexi-sécurité si les élites sont totalement non accountable? Première chose. Deuxième chose, la confiance, elle vient aussi que c'est ce que dit Pierre Cahuc, c'est que la France est un pays extrêmement corporatiste. Et hélas, alors ça ne concerne pas la CFDT, mais si on prend beaucoup de systèmes sont maintenus parce qu'ils arrangent à la fois le patronat et les syndicats. Si on prend la formation professionnelle, il y a peu de preuves que les 25 milliards de la formation professionnelle servent à quelque chose. Il y a toutes les preuves que c'est un gigantesque lieu où on pioche tous le patronat. On a vu ça avec le comité des forges là, et une partie des syndicats. Donc comment on peut demander aux gens de croire à l'avenir, à l'entrepreneurship, si tous les insiders sont là à manger leur truc sans être bougés.
On va s'arrêter là, Jacques.
Dernier point. L'entrepreneurship, tous les gens, on a eu des explications macroéconomiques sur la croissance, etc. et autres. C'est vrai qu'il faut plus d'investissement dans la connaissance et autres. L'un des vrais sujets, c'est que nous, les sujets brillants, vont le rêve d'un très bon élève à 18-20 ans, c'est d'intégrer Polytechnique, dans le sortir dans les meilleurs, ou d'aller à l'ENA, de sortir inspection des finances. Donc le rêve des meilleurs de la génération, c'est souvent d'aller prendre un morceau de rente pour la garder toute la vie. Donc tant qu'on n'a pas réformé ça, ça sera compliqué d'expliquer que... Alors j'ai rien contre le fait qu'il y ait des fonctionnaires, c'est pas ça le sujet, mais ça doit être la diversité. Quand le but ultime, ça doit être d'aller chercher la rente ultime, c'est compliqué de faire en sorte d'avoir cet entrepreneurship qui va être lié, qui va créer la croissance. Merci.
Merci Jacques. Allez, Sans plus tarder, vous avez la parole pour poser vos questions. Oui, monsieur, ça va? Oui.
Bonjour. Vous parlez de l'encouragement de l'État à la concurrence qui fasse baisser les prix. Dans le cas de la téléphonie mobile concernant les trois opérateurs SFR, Orange et Bouygues Télécom, qui ont été condamnés pour entente illégale sur les prix, Comment expliquez-vous qu'il y a deux sons de cloche entre... Donc, il y a eu entente illégale sur les prêts entre ces trois opérateurs et l'État peut donner une quatrième licence pour un quatrième opérateur. Or, cette licence se fait attendre et il semble qu'elle soit bloquée par les amis de Nicolas Sarkozy. Comment expliquez-vous qu'il y ait deux sons de cloche entre l'encouragement à la concurrence et les faits appliqués?
Alors, Philippe Bouilloux ou Jacques Delplat?
Peu importe, tant que vous avez la réponse.
Allez, Jacques. La question, c'est comment ça se fait qu'on prône la concurrence, voilà, et que la quatrième licence pour la téléphonie mobile se fait tellement attendre, parce que, dit monsieur, c'est l'ambition des amis de Nicolas Sarkozy d'empêcher l'émergence d'un
quatrième. D'après Le Canard enchaîné, d'après divers journaux, oui.
Je suis assez d'accord. Donc, c'est une des propositions là-dessus. J'étais totalement d'accord avec la commission Attali. Il y a une espèce d'oligopole de la téléphonie, donc on le voit bien. Dans l'un des moyens de mettre la concurrence et tout, ça serait un quatrième opérateur. Alors, c'est un peu compliqué aujourd'hui parce qu'il n'y a qu'un seul opérateur qui est prêt à le prendre, c'est Free. Donc, alors, il y a deux sujets. Il y a un sujet légal, un sujet politique. Le sujet politique, c'est ce que vous avez dit, c'est qu'il y a trop d'amis. Il y a trop. Alors, c'est pas que Bouygues, hein, parce que vous savez, Orange fait, est encore à 35% détenu par l'État, ou 30%, je ne sais plus. Et il y a une scission complète au ministère des Finances, c'est que le Trésor se veut libéral, mais en fait, comme il est actionnaire d'un grand nombre de sociétés à monopole, il n'a aucune envie de mettre de la concurrence dans des monopoles qui vont où ça va réduire la valeur. Donc, c'est pas que Bouygues. Si c'était que Bouygues, ça serait simple. Mais ça va au-delà. La deuxième chose, c'est qu'il y a un sujet. Quand Fabius, bon, il faut taper la droite mais aussi la gauche, quand Fabius a fait l'allocation des enchères UMTS, il y a eu une idée parce qu'on n'aimait pas le marché ou parce que peut-être un certain nombre de. Aussi parce que France Télécom à l'époque faisait trop de bruit à l'intérieur de Bercy. On n'a pas voulu mettre les licences aux enchères, donc on a mis un système très compliqué de paiement, première fois 619 millions d'euros et après. Et donc c'est très compliqué de donner une quatrième licence en revenant sur le contrat initial. Voilà. Donc il y a un problème juridique qui est assez important. Cela dit, je salue le courage de l'autorité de régulation des télécoms et de l'ARCEP là, qui a dit qu'il fallait le faire. Voilà. Alors, dernier point, en période de récession, ça sera très compliqué pour n'importe quel opérateur d'aller chercher l'argent pour payer à front les 619 millions d'euros pour ça. Mais évidemment, ça serait très bien d'avoir un quatrième opérateur.
Non, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Jacques quand il a expliqué les difficultés techniques. Pour le reste, les intentions supposées des uns ou des autres, que ce soit les amis du pouvoir ou que ce soit la direction du Trésor, ça, ce ne sont que des intentions supposées. Je ne peux pas le laisser passer comme étant des vérités. Ce ne sont pas des vérités. Il faut s'en tenir aux faits. Et dans les faits, il y a les difficultés, notamment de nature juridique, et les difficultés de contexte, le fait qu'il n'y ait qu'un seul candidat, etc. Il y a des difficultés réelles. Bon, et le message, sinon, sur la concurrence et la concurrence pour faire baisser les prix, il est assumé par tout le monde. Hein, chaque fois que c'est possible, que ce soit du côté du pouvoir politique ou que ce soit, Jacques, du côté des services du ministère des Finances.
Autre question.
Françoise Lapierre, SGAN CFDT Enseignement Supérieur Recherche. C'est à Philippe Bouilloux. C'est par rapport à son optimisme sur les réformes du gouvernement. Je voudrais quand même dire que dans l'enseignement supérieur et la recherche, il y a quand même une incohérence qui sont les suppressions de postes qui sont prévues pour les budgets 2009, 2010 et 2011. Il y a 900 suppressions de postes et ça, c'est complètement incohérent avec un investissement pour l'avenir de la France.
Oui, je ne vais pas entrer dans une polémique et je ne vais pas discuter une mesure précise. Mon propos a été d'indiquer une orientation, d'indiquer une grille de lecture et d'indiquer des orientations qui rentraient dans cette grille de lecture, c'est-à-dire quels sont les leviers que l'on veut actionner. J'ai mentionné le plan campus, j'ai mentionné globalement l'effort qui est fait en faveur de l'enseignement supérieur, sur les modalités, sur les arbitrages qui sont faits, sur les décisions qui peuvent être prises dans le cadre d'un budget sur un sujet donné, je pense qu'on ne peut pas épuiser la discussion dans un échange comme celui-là.
Autre question ? Oui, monsieur.
Oui, plus une remarque qu'une question. Alors, une première remarque, je suis assez désolé que quasiment l'ensemble de la tribune crie « Vive la crise ». Je suis assez étonné que l'ensemble de la tribune crie « Vive la crise ». Deuxième chose, je voudrais revenir sur la question de la confiance. On demande à ce que, pour que les réformes soient acceptées, la confiance soit mise en œuvre. Alors, je ne reviendrai pas sur la petite place qu'ont les organisations syndicales, malheureusement, depuis des années, dans la mise en place de cette confiance, puisqu'on voit que les gouvernements font tout pour réduire leur influence. Deuxième chose, et là, je m'adresse plutôt à monsieur Bertrand Collomb, il est difficile pour les salariés qui vont peut-être subir les affres des réformes d'avoir une certaine confiance, puisque comment les salariés peuvent-ils avoir confiance lorsqu'on leur dit qu'ils vont perdre leur emploi? Alors, si c'est une industrie qui n'est plus compétitive, on comprend bien qu'à un moment ou à un autre, il faut bien fermer des mines. C'est normal, c'est l'évolution. Et évidemment, il va être difficile pour eux de trouver une solution de secours. Et la flexécurité peut apporter ça. Mais quand on supprime des emplois pour des raisons financières, alors que l'entreprise fonctionne bien et fait des bénéfices, on peut aussi comprendre que les salariés n'aient pas vraiment confiance dans ce qui se passe et donc acceptent mal les réformes.
Bertrand Collomb et Gaby Bonan ajoutera un mot. Je suis
bien d'accord que la confiance n'est pas facile dans les situations difficiles. Quand je dis confiance, ce n'est pas une confiance d'ordre personnel, c'est une confiance simplement, disons, que les choses qui sont dites sont des choses vraies. Et en particulier, à l'intérieur de l'entreprise, on peut relativement facilement montrer que si le coût d'une usine est supérieur au coût d'une autre, ce sont des données qui sont vérifiables, etc. Alors c'est toujours beaucoup plus difficile au niveau global, parce qu'effectivement, au niveau global, il y a des tas de discussions, et il suffit que quelqu'un dise A, qu'un économiste dise A, il y a quand même toujours un autre économiste qui va dire B, et donc les gens ont du mal à s'y retrouver. Mais si vous voulez, je pense quand même que il n'y a pas... dire des choses désagréables aux gens, on peut être entendu, ça dépend de la façon de les dire. Et je ne suis pas en train de dire que toutes les entreprises, ni tous les gouvernements, s'y prennent bien. Ce que je dis simplement, c'est que quand on s'y prend bien et quand on passe le temps nécessaire, on fait la pédagogie nécessaire et on a, disons, parlons de fiabilité plutôt que confiance, qui est peut-être un peu trop sentimental, mais qu'il y a une certaine fiabilité du discours, bah, les gens comprennent. Alors, ça ne veut pas dire que les gens sont d'accord. Bon, si une situation donnée conduit à ce que je perde mon emploi, ben, je ne vais pas forcément être d'accord, je ne vais certainement pas être heureux. Mais ce n'est pas la même chose si je l'apprends un matin en me réveillant avec l'impression que c'est une décision totalement arbitraire qui a été prise quelque part au sommet d'un groupe multinational et qu'on ne m'a jamais expliqué, ou si c'est une situation qu'on m'a expliquée, que je comprends plus ou moins, qui s'est développée pour telle et telle raison et qui aboutit à une conclusion. Moi, c'est ça que je voulais dire simplement. Alors, c'est beaucoup plus difficile au niveau macro qu'au niveau micro. Ça, je l'admets bien volontiers.
Oui, d'abord, moi, je ne pense pas qu'on a dit vive la crise. Moi, j'ai dit que la crise, c'était une opportunité. Ce n'est pas de même nature. Parce que vive la crise, je ne le dirai pas, parce que je connais suffisamment de salariés qui en souffrent aujourd'hui pour dire vive la crise. La confiance, ça passe quand même. Moi, je suis d'accord qu'on regarde les choses globales, mais je pense parfois qu'il faut les regarder de manière précise. On a, et pas uniquement grâce à l'action des gouvernants, mais parce qu'il y a eu une pression des organisations syndicales, la loi du 31 janvier dont j'ai fait référence tout à l'heure, elle donne un espace de négociation. Cet espace de négociation, il a été pris par les organisations pour faire deux grandes réformes qu'il faudrait mieux valoriser d'ailleurs, de ce début d'année, enfin de cette année 2008. La première, c'est ce qui entame la sécurisation des parcours avec la loi sur le marché du travail et puis l'accord sur la gestion prévisionnelle des compétences, la négociation sur la formation professionnelle et l'assurance chômage qui sont là. Bon, ça ne fait pas le feu, ça ne fait pas l'actualité tous les jours, mais il y a des choses qui se font. Il y a un grand accord qui a été signé avec la CFDT, la CGT, le MEDEF, la CGPME, pour réformer la représentativité et donner de la force aux syndicats à partir d'élections qui auront lieu dans les entreprises maintenant et qui identifieront et qui renforceront la présence syndicale pour arriver aussi à négocier et avoir des compromis. Et je dirais que, simplement, la confiance, je voulais le dire à Jacques Delplat, la confiance, c'est aussi dire des choses relativement... je ne dis pas que vous ne dites pas des choses justes, mais à trop vouloir prouver, parfois, on peut nuire à l'objectif. Vous dites, la formation professionnelle, on sait, c'est 25 milliards, on n'est pas sûr. 25 milliards. Sur les 25 milliards, il y en a 10,5 qui sont collectés par les entreprises dans le cadre des organismes paritaires des OPCA. Oui, non, mais c'est même le patronat, je vais pas défendre. C'est le patronat, 10,5 milliards. Les 15 autres milliards, c'est l'État et les conseils régionaux. Alors ne disons pas, les partenaires sociaux, ils veulent se tirer du pognon, et ils se financent les organisations avec 25 milliards. C'est faux. 10,5 milliards. 10 milliards, c'est pas mal. Non, mais attendez, il faut être sérieux. C'est pas mal, d'accord, mais sur ces... Moi, je ne vais pas défendre uniquement ça. Je pense qu'il faut dire, à trop vouloir prouver, on peut nuire à l'objectif. C'est comme quand on dit qu'il ne se fait rien. Quand on dit qu'il ne se fait rien, la confiance, elle passe par la valorisation de ce que font les acteurs. Aujourd'hui, il y a eu deux accords qui s'est signé, et je ne suis pas d'accord avec Philippe Aguillon, parce que je l'ai vu avec vous, quand on dit, depuis deux ans, il ne s'est rien fait. Il y a des réformes majeures qui se sont faites, mais par contre, ça fait moins l'actualité qu'un livre, ça ne fait pas les unes des médias, d'accord, on travaille dans l'ombre, mais moi j'attends des intellectuels, j'attends des élites de ce pays, qu'à un moment donné, elles ne s'arrêtent pas uniquement quand tu as du sang sur les murs. Mais quand on voit des choses qui se font réellement, concrètement.
Attends, tu me laisses deux secondes. Sur ce qu'a dit monsieur Bertrand Collomb est trop gentil. Il faut que les entreprises qui font des profits licencient. S'il n'y a que les entreprises qui font des pertes qu'il faut licencier, on est parti pour la Corée du Nord. Si les entreprises elles veulent pouvoir investir dans les secteurs d'avenir, il faut qu'elles aient des profits pour investir. Si aucune entreprise n'a le droit de licencier et donc de réallouer les facteurs de production tant qu'elle fait des profits, un, il n'y aura plus aucune entreprise qui viendra investir en France, et deux, celles qui seront là couleront parce qu'elles n'innoveront plus. Le cœur du sujet, c'est la destruction créatrice. Donc, voilà. Et pour voilà. Je suis totalement d'accord. Ouais.
Dernière question, monsieur. Oui.
Oui. Je reviens sur la question de la confiance. C'est ce que disait monsieur Delprat tout à l'heure, que toutes les réformes sont asymétriques. Quand on risque des placements à court terme, on ne risque rien. Quand on risque son salaire et son avenir ou le niveau de sa retraite, on risque tout dans le vital. Donc, cessez, messieurs les fonctionnaires, parce que vous l'êtes tous à la tribune, même ceux qui sont hauts dirigeants quelque part, parce qu'avoir vos titres, vous avez des parachutes. Pas seulement le premier décile, mais loin au-delà de la population, est dans un état d'insécurité qui n'arrange rien et qui ne crée pas de possibilité de confiance. On ne peut pas avoir confiance dans la fusion des organismes tout à fait logique à propos du chômage, quand on sait ce que ça donne dans d'autres pays. Ça donne simplement, la seule chose importante, c'est de diminuer le chiffre affiché du chômage. Tant pis si la moitié des chômeurs sont déclarés handicapés sociaux et donc dépendants du RMI ou l'équivalent en Hollande. Et je pourrais continuer longtemps. Pareil pour la retraite à 70 ans que certains ont osé osé citer ici. Ce qui est effectivement dramatique en France, c'est que quelqu'un, c'est mon cas personnel, mais de beaucoup de gens, à partir de 50 ans, soit condamné au chômage pour le restant de ses jours, et non pas que les quelques-uns, dans les quelques cas où ce serait bénéfique, mais bénéfique pourquoi? Parce qu'à 65 ans, ils n'auront pas eu le nombre de trimestres. C'est là que c'est pervers.
Deux mots sur la confiance. Il y a deux sujets dans la confiance telle qu'on l'évoque aujourd'hui. Il y a le sujet de manière un peu structurelle en France, et puis il y a le sujet du contexte actuel et du contexte de crise. Sur le sujet, si on écarte la période actuelle de crise, c'est vrai qu'il y a une question de confiance en France. On a mentionné tout à l'heure les thèses sur, au contraire, la défiance. Il y a un faible niveau de confiance en France, et comme le faisait remarquer Gilbert Sept, il y a des paradoxes français, et en particulier le fait que c'est là où on a le plus de protection qu'on a simultanément le plus fort sentiment d'insécurité. Donc il y a un sujet général. Pour ce qui est de la situation de crise actuelle et sur la politique économique à conduire face à la crise, un point important du diagnostic, c'est la crise est là pour combien de temps ? Est-ce qu'on est là pour une récession assez brève ou pour une récession assez prolongée? La politique économique à suivre n'est pas forcément la même dans les deux cas. Si vous prenez le cas de pays comme les États-Unis, il est très probable que spontanément, on est parti pour une récession qui est non seulement profonde, mais également durable. Il y a des ajustements de bilan à faire qui sont très importants. Il y a un endettement des ménages qui est très considérable, un taux d'épargne qui est très faible. Et donc, on peut se trouver dans une situation durable de récession. On n'est pas dans le même type. On pourrait dire des choses comparables sur le Royaume-Uni ou sur l'Espagne, où il y a des aspects sectoriels spécifiques, que ce soit le secteur financier ou le secteur de l'immobilier. On n'est pas dans cette situation en France. On n'a pas les mêmes excès à corriger. Pour autant, il y a des risques qui viennent notamment de l'international, des États-Unis, et c'est face à ces risques que vont se faire, d'une manière ou d'une autre, les anticipations des agents. Et si les anticipations, vous appelez ça la confiance, si les anticipations sont que la crise est durable, on a un problème qui est le risque de hausse du taux d'épargne, qui est le risque d'arrêt de l'investissement, et c'est par rapport à ce problème qui est un problème de confiance qu'on a un risque et que se pose aujourd'hui la question de faut-il faire plus, notamment du point de vue de la relance, du point de vue budgétaire. Et en tout cas, en disant cela, je vais insister sur le fait qu'on ne dit pas vive la crise, on est tous très préoccupés. On souhaite simplement que ça ne remette pas en cause la cohérence générale d'une démarche engagée.
Merci Philippe Bouilloux, merci à tous, merci de votre attention. Oui, hein, vous l'avez bien compris, il ne s'agissait pas de dire vive la crise, mais de dire que si parmi tous les inconvénients qu'elle peut avoir, eh bien, s'il y a au moins, elle permet de peut-être avancer les réformes qui nous permettront d'aller mieux demain, eh bien, saisissons cette opportunité. Merci beaucoup.